Bonjour, bonjour, merci. Donc, comme a dit Alissa, ce matin, on continue dans la maturité, en tout cas avancer vers ce but, de devenir un disciple émotionnellement sain. C'est ambitieux, hein ? Ben, enfin, en tout cas, un chrétien plus mature dans la compréhension du plan de Dieu. Voilà. Donc, mon sujet ce matin, qui m'a été dévolu, c'est quelle place, quelle importance pour notre vulnérabilité, c'est bien parce qu'on n'a parlé que de puissance, donc super, dans la marche avec le Seigneur. Hein. C'est un fardeau, c'est une bénédiction, c'est quoi ? Donc c'est ce qu'on va essayer de voir ce matin, est-ce que c'est un bienfait ? Voilà, donc d'un point de vue humain, on va sans arrêt faire ça, hein. On va avoir une pensée humaine, une pensée chrétienne, on va dire, on va appeler ça comme ça. Ça reste toujours des humains. Hein. Voilà, d'un point de vue humain, de manière générale, l'homme se croit invulnérable. Il le manifeste dans beaucoup de choses. Voilà. Surtout quand tout fonctionne pour lui. Hein ? Surtout quand il se pense arrivé. C'est vrai. C'est vrai, c'est comme ça, c'est dans notre nature. Mais il y a plusieurs formes aussi de vulnérabilité, physique, morale, psychique. Alors pour beaucoup, la vulnérabilité, c'est un défaut. Voilà. C'est un défaut parce que la vie, la société, en général, nous demande d'être fort. D'ailleurs, souvent, quand on vit une situation difficile, les gens au téléphone, je pense à ça parce que je l'ai vécu il n'y a pas longtemps, avant de raccrocher, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Courage. Moi, ça me déprime totalement. Je me dis, s'il me dit courage, c'est que je suis encore plus que ce que je pensais être. Donc moi, ça ne m'encourage pas du tout. Voilà, sachez-le. Hein, c'est comme ça. Hein, parce que la société, donc, elle nous demande d'être fort, d'être courageux, de rien laisser pas être. Car si vous êtes vulnérable envers les autres, eh ben, vous êtes en position de faiblesse. Et puis, ben, les humains, en général, ils n'aiment pas ça. Dans des conflits humains, il n'y a pas de place pour la vulnérabilité. Hein. On se croit fort. Ah, je savais que j'avais oublié un truc. Désolé. Voilà. Je suis vulnérable. Donc, un jour, je parlais avec quelqu'un, comme tous les jours d'ailleurs, mais là, il me dit, mais tu réalises combien l'homme est la plus faible des créatures. Et il me dit, c'était marrant, mais c'était vrai. Il me dit, ben, imagine un jour que les animaux réalisent qu'on est faible. Ben, ils nous bouffent. Hein. Et il me donnait des exemples. Les chiens, d'un coup, ils réalisent qu'ils sont plus forts que nous. Les chats, bon, on ne ferait pas le poids. Hein. Voilà, je vous laisse réfléchir. Mais c'est vrai. Hein. On ne ferait pas long feu. Voilà, on est faible. On est vulnérable dans notre nature. Et pourtant, le Seigneur nous a donné la terre. Et on doit régner dessus. Il aurait pu le donner, je ne sais pas, au lion. Ben non, il l'a donné à l'homme. Voilà. Pour imager la vulnérabilité d'un point de vue humain, voilà, fermez les yeux, imaginez. C'est comme être sur une scène, nu, voilà, vous imaginez. Et espérer avoir des applaudissements plutôt que des rires. Vous voyez ? C'est ça la vulnérabilité. C'est se mettre à nu et espérer avoir des applaudissements. Alors on est vulnérable, fragile, changeant, peu fiable. Et donc on va regarder Deutéronome 8. Vous savez, c'est tout le passage du passage d'Israël en Canaan. Et quelque part, ça illustre un peu nos allers-retours. Je vais juste lire un passage, vous lirez tout le Deutéronome 8. « Prends garde à toi, de peur que ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a retiré du pays d'Égypte. » C'est juste pour vous donner le contexte. Hein. Alors, le Deutéronome, c'est le livre du souvenir. Hein. Souviens-toi, arrête-toi, regarde ce que tu as vécu, ce que tu as traversé avec l'Éternel. Ça, c'est l'idée générale du Deutéronome. Hein. Ils ont vécu dans le désert, ils ont galéré 40 ans et enfin, ils vont passer de l'autre côté. Et donc, en peu de mots, il va rappeler leurs conditions dans le pays et la délivrance merveilleuse par laquelle ils ont été tirés. Mais par-dessus tout, son but, c'est engager Israël à se souvenir de son voyage dans le désert, de constater combien ils ont été vulnérables et combien ils ont eu cette alternance que nous avons, je pense aussi. Je me crois fort, Dieu est merveilleux, je me sens vulnérable, Dieu est responsable. Je pense que c'est universel ça, hein. Et comme Israël, c'est le peuple de Dieu et que nous sommes le peuple de Dieu, on peut faire des analogies. Hein. C'est comme une division en trois parties, cette histoire de voyage, hein, de notre vie. D'abord, on est en Égypte, maison de servitude. On est tiré du péché, de cette maison de servitude. On n'est plus esclave du prince de ce monde. Ensuite, Canaan, c'est la terre promise. C'est l'analogie, bien évidemment, avec le ciel. On va y aller, tous. Hein, il n'y aura plus de larmes, il a été dit. Donc ça, c'est bien. Et puis après, il y a la vie. Et là, c'est ce désert par lequel l'Éternel nous fait marcher. C'est un monde de péché, de souffrance, mais il nous laisse encore dedans. Mais c'est aussi le temps de l'éducation. C'est le temps de la reconnaissance. C'est le temps du besoin que j'ai du Seigneur dans le quotidien. C'est notre vie à chacun. C'est la vie présente. Et cette histoire, elle nous dit combien on est vulnérable. Elle nous dit combien, dans tous les domaines de la vie, on est peu fiable. Hein. Mais cette histoire aussi, elle a un seul but, nous amener la révélation de notre besoin et de notre dépendance vis-à-vis du Seigneur. Hein. Et donc, on va rester dans cette analogie, parce qu'on va s'y retrouver chacun va s'y retrouver. Par exemple, vous vous souvenez, Israël, il passe la mer. Alors là, vous vous rappelez, il y a les Égyptiens aux fesses. Donc là, c'est une reconnaissance. Jamais ils n'ont été autant reconnaissants, jamais enthousiastes, jamais ils auraient tout donné. Ça nous arrive, un peu. 400 ans d'esclavage, et là, ivre de liberté, ivre de joie, d'espérance. Ils commencent leur voyage vers la terre promise et ils vont chanter d'une seule voix, d'une seule âme. En Exode 15, j'en dis juste un extrait, vous le lirez. « Je chanterai à l'Éternel car il s'est hautement élevé. Il a été mon sauveur, mon Dieu fort. Je lui dresserai un tabernacle. C'est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Son nom est l'Éternel. » Ça nous arrive dans nos vies. Et plus loin, « Ô Éternel, l'Éternel régnera à jamais et à perpétuité. Chantez à l'Éternel, car il s'est hautement élevé. » Là, rien à dire. Mais hélas, cet enthousiasme, il a été de courte durée. Hein. L'eau leur manqua d'abord, ils murmurèrent. La nourriture miraculeuse que Dieu a envoyée, mais ils n'en pouvaient plus, quoi, chaque matin. Donc ils n'ont pas tardé, là aussi, elle leur a paru fade. Puis, ils étaient fatigués de marcher. Puis, ils étaient dans un désert. Petit à petit, ils se sont vraiment lassés. Ils vont envoyer des espions en avant, hein, dans le pays dans lequel ils rêvaient d'être. Mais plutôt que de croire, ils se laissent aller au découragement. Ils entendent le récit, pas des belles choses, des grappes énormes qu'on porte avec, à deux personnes. On imagine la taille. Non, c'est quoi les difficultés, les obstacles pour s'emparer de cette situation? Comment on fait? Ils voyaient comme ça, que ça. La délivrance était là, mais ils n'ont pas cru à cette délivrance. Ils n'ont pas cru que cette terre où coule le lait et le miel, ils n'ont pas cru, ils ont vu des géants, des difficultés. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont sentis petits, ils se sont sentis faibles. Ils manifestaient quoi? Que le Seigneur qui les avait délivrés, ils chantaient des chants, j'allais dire 10 minutes avant, dans le timing, je ne sais pas, mais ils chantaient des chants. Ben, à ce moment-là, ils étaient tellement invulnérables, ils ne voulaient pas, ils ne pouvaient pas se réfugier dans l'Éternel. Ils ont vu la poutre, alors que c'était une paille. Parce qu'avec l'Éternel, c'était une paille. Mais eux, ils ont vu la poutre, leur poutre. Hein, et ils vont regretter quoi? L'esclavage. D'où ils ont été tirés. Ça nous parle. Hein, leur vulnérabilité leur était insupportable. Et parfois dans nos vies, c'est ce qui se passe. Hein. Parfois notre notre vulnérabilité, dans des situations difficiles, elle nous écrase, elle nous plombe. On ne comprend plus. Hein. Et pourtant, c'est bien du fond du cœur qu'en commençant notre marche, quand on s'est converti, on répète avec Israël d'autrefois, nous ferons tout ce que Dieu nous a demandé. Et on est sincère. Mais il faut descendre de ses hauteurs, il faut s'engager de nouveau dans le plat pays. Ça s'appelle la vie de tous les jours. Après la joie de la conversion, la joie du salut, la joie de recevoir l'amour de Dieu, ben ce jour-là, on ne voudrait pas qu'il bouge. Hein. Vous vous en souvenez ? Ce jour-là, il est merveilleux. Ce jour-là, on veut rien, que rien ne change. Il est bon de s'en souvenir. Parfois, on en a besoin. Mais la conversion, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, la vie. La conversion, c'est le commencement d'une nouvelle vie. Et tout commencement a une fin. En fait, pas une fin, une suite. Hein ? Ça recommence. Hein ? Et c'est ça qui nous conduit dans la maturité. Et c'est ça, c'est le seul moyen d'approfondir notre relation avec le Seigneur. Donc soyons vrais, voilà, ça c'est une invitation. Ne nous est-il jamais arrivé, comme les Israélites, de nous plaindre, de murmurer intérieurement, de nous dire « je me sens faible, je me sens au plus bas, c'est trop ». Mais pourtant, est-ce qu'à ce moment-là, vous avez eu une question ? Y a-t-il eu cette question ? Mais l'Éternel, ton Dieu, t'a-t-il abandonné ? C'est une bonne question. Hein ? Est-ce que Dieu nous a laissé manquer de ce pain quotidien qu'il nous a appris à demander chaque jour ? Surtout que quand, au lieu de te faire du souci de beaucoup de choses, tu t'es souvenu que l'homme ne vivait pas de pain seulement, hein ? Mais de toute parole sortie de la bouche de Dieu. Hein ? N'avons-nous pas fait l'expérience que quand nous cherchions le royaume de Dieu et sa justice, toutes les autres choses nous sont données par-dessus ? On l'a fait cette expérience. Je pense que chacun de nous l'avons fait. C'est juste un rappel. Hein ? C'est juste un rappel. Hein ? Tous les jours, nous connaissons parfois des doutes dans ce grand désert. L'avenir s'assombrit et on se demande mais quel chemin on va prendre ? Ne vous inquiétez pas, la deuxième partie, c'est plus... Non, je vois la tête de certains. Ils sont plombés, là, ils se disent, mais... Ne vous inquiétez pas, c'est mieux après. C'est pas que c'est mieux, c'est mieux. Bon, voilà, vous verrez. Et où on se demande avec angoisse, ouais, c'est vrai, le chemin qu'on doit prendre. Mais, dans toutes ces situations, souvenez-vous, j'en plaisante, mais c'est très sérieux, il n'y a pas eu un frère à ce moment-là ? Vous n'avez pas vécu une révélation ? Un réma qui nous a empêchés de nous égarer ? Un encouragement, pas juste courage, un encouragement. La promesse du Seigneur s'accomplit. Hein ? Il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit, et je crois que c'est pour chacun, « Je te rendrai avisé. » C'est une promesse. « Je te guiderai de mon œil. Je te montrerai le chemin où tu dois marcher. » Je mettrai une lampe à tes pieds et une lumière dans ton sentier. Ça, c'est le plan de Dieu pour nos vies. On a besoin de lui. C'est comme ça. Voilà. Acceptons notre vulnérabilité. Ouvrons nos yeux, soyons attentifs et sachant reconnaître que l'Éternel qui nous prévient, nous suit et nous garde en tout temps. Sachons le reconnaître dans toutes les situations de notre vie. Parce que si je suis le plus fort, j'ai besoin de personne. Et ça, à force, c'est pas la pensée de l'Évangile. La pensée de l'Évangile, c'est quoi ? C'est quand je suis faible que je suis fort. C'est pas la même chose. On tend vers une terre promise, mais on passe au travers d'une vallée. Mais le Seigneur a tout préparé, tout calculé, tout disposé pour former notre âme. Maintenant, il y a deux camps. Celui de la foi ou celui d'une aveugle fatalité. Mais il n'y a pas de milieu. Hein. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas un coup de bol. Il y a pas... On le voit avec la foi, on le voit dans une fatalité. Et ça peut arriver, parce que nous sommes humains, nous sommes fragiles. Mais on verra la suite. Parce qu'il est salutaire, salutaire qu'on soit amené à reconnaître que Dieu seul est saint. C'est bon pour nous, que Dieu seul est bon, que Dieu seul est un asile sûr pour notre âme. Il est nécessaire d'être amené à cet endroit-là. Nécessaire d'être amené quand Asaf, qui a passé par des chemins difficiles, qu'est-ce qu'il dit ? Je serai donc toujours avec toi, ô Éternel. Tu m'as pris par la main droite, tu me conduiras par ton conseil, et puis tu me recevras dans ta gloire. C'est magnifique, hein ? Quel autre ai-je au ciel que toi ? Quel autre ? Je n'ai pris mon plaisir sur la terre qu'en toi seul. C'est ça le plan de Dieu. C'est que nous soyons capables de dire ça tout simplement. Je n'ai pris mon plaisir sur la terre qu'en toi seul. Ma chair et mon cœur étaient consumés, mais Dieu est le rocher de mon cœur et mon partage à toujours. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. J'ai mis toute mon espérance au Seigneur l'Éternel. C'est extraordinaire. C'est ça que le Seigneur, c'est vers ce chemin qu'il nous amène. Vous voyez, c'est pas, il n'y a pas de situation, il n'y a pas tout ça, il y a simplement notre cœur. Ça a été dit ce matin. Hein. Je serai donc toujours avec toi. Quel autre ai-je au ciel que toi ? Et parfois dans nos vies, il faut être rendu à cette situation pour être capable de dire, mais quel autre j'ai ? J'ai pas de... Tu es mon refuge, tu es mon rocher. Mais ça prend du temps. L'apôtre Paul, hein, il a dit, tout bien considéré, j'estime que les souffrances du temps présent ne sont point à comparer avec la gloire à venir qui doit être manifestée en nous. L'apôtre Paul, au hasard, au passage, c'est quand même quelqu'un, parce que c'est rappelé dans les Actes, je crois, qui a été lapidé quelques fois, quand même lapidé, hein, 3-4 fois, il me semble, qui a été mort 2 fois, enfin, considéré comme mort, qui avait cette écharde dans son corps, on ne sait pas ce que c'est, ou, enfin, chacun a son interprétation, mais peu importe. Et malgré ça, malgré tout ça, rejeté, enfermé, prisonnier, tout bien considéré, j'estime que les souffrances du temps présent ne sont point à comparer avec la gloire à venir. C'est que c'est vrai. Mais c'est une révélation personnelle pour chacun. Moi, je ne peux pas arriver et dire à quelqu'un, ben, c'est super, hein. Regarde, Paul, il dit, tout bien considéré, j'estime que les souffrances du temps présent, ça ne marche pas. C'est une révélation. Un frère peut le dire, mais la personne qui le reçoit, pour l'accepter, c'est le Saint-Esprit en elle qui le fait. C'est impossible autrement. Ou alors, bon, bref. La vulnérabilité, c'est un auteur américain qui a écrit ça, c'est notre mesure la plus précise du courage. Vous voyez ? C'est pas... Notre éducation, la société, donne une fausse image ou tronquée de la vulnérabilité. On la considère comme une faiblesse, une chose à laquelle on succombe. Et en fait, la vulnérabilité, bien au contraire, c'est une très très bonne chose. Pourquoi ? Parce que rappelez-vous que c'est au travers de votre vulnérabilité que vous avez accepté le Seigneur. Sans cela, vous ne l'auriez jamais accepté. Parce que vous étiez chacun, je m'inclus dedans, nous étions forts, nous étions sûrs, nous n'avions besoin de personne. Et un jour, notre cœur s'est ouvert parce que nous nous sommes sentis vulnérables, parce que nous avons laissé le Seigneur entrer dans notre vie. Ça, c'est le premier point de la vulnérabilité. C'est quand on a reconnu notre besoin d'être pardonné, d'être sauvé de nos péchés. Voilà. Et c'est comme ça que Jésus est entré dans nos cœurs. C'est ce que la Bible appelle la repentance. La vulnérabilité ouvre notre cœur, comme je disais tout à l'heure, elle nous met à nu, elle nous rend sincères, elle ôte tout ce qui pourrait bloquer la porte dans notre cœur. À ce moment-là, à l'instant précis, on n'est pas bidon, en gros, si on le paraphrasait. On est vrai. Quand on donne sa vie au Seigneur, c'est vraiment un moment de notre vie où on a été vraiment vrai. Et c'est la vulnérabilité qui nous a permis de donner notre cœur. Ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas... Non, juste ça. Et c'est un modèle pour notre vie, la vulnérabilité, pour la suite. Ce n'est pas juste une fois. Donc n'ayez pas peur de votre vulnérabilité, surtout devant Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu ne l'utilisera jamais contre vous. Jamais. Il va pas... Le Seigneur, il ne va pas venir vous dire « Mais tu es vulnérable, tu es nul. » Il ne viendra jamais vous dire ça. Jamais, jamais, jamais. Donc c'est important. Vous voyez que c'est mieux là. C'est au travers de notre vulnérabilité, moi je vous l'ai déjà dit, que Jésus est rentré. Alors que le Seigneur, au contraire, il viendra doucement au fond de notre cœur, nous parler, nous révéler et combler nos besoins les plus profonds. Donc la vulnérabilité, c'est super. Osez être vulnérable aujourd'hui, osez vous montrer tel que vous êtes. Pourquoi ? Parce que Dieu nous connaît parfaitement, on ne prend aucun risque. Le Seigneur, il est venu dans ce monde comme quelqu'un de doux et humble de cœur. Il ne nous veut que du bien. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu 11, 29 ? Acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école, car de tout mon cœur, je suis doux et humble. Ainsi, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Acceptez de vous laisser diriger. Pour accepter de se laisser diriger, il faut avoir ouvert la porte de notre cœur. Pour avoir ouvert la porte de notre cœur, il faut être vulnérable, dans le vrai bon sens du terme. Et ça, c'est extrêmement... C'est super. Hein ? Si vous vous sentez incapable de faire quelque chose de bien aujourd'hui, ben, vous ne vous cachez pas derrière, vous savez, un sourire forcé, tout va bien, je vais bien, vous savez. Oui, oui, je vais bien. En plus, il y a... Bon, je ne vais pas vous faire de la psychologie de... Mais vous savez, il y a, bon, je vous le dis quand même, il y a un truc qui dit, on dit ce qu'on n'est pas. Hein, voilà. Alors, ça, c'est quand c'est dans une conversation, par exemple, on va prendre un exemple, je vous parle, et puis à un moment donné, je vous dis, moi, je ne suis pas menteur. Hein. Bon, si je vous dis ça comme ça, hors contexte, il y a des chances que je sois un peu menteur. Ce n'est pas moi, hein, c'est un exemple. Non, mais vous voyez l'idée, hein? Voilà. Et c'est pour ça que quand on va dire, on vous demande rien, bonjour, on se fait la bise, et quelqu'un spontanément va vous dire, je vais bien, il va pas bien. Ça marche à 98%. Hein. Voilà. Donc s'il vous dit qu'il va bien, proposez-lui de prier avec lui. Voilà. Puisqu'il va bien, il devrait l'accepter. En général, c'est quand on va mal qu'on veut pas qu'on prie pour soi. Donc il va bien, vous emparez de sa parole et vous lui dites, eh ben, tiens, on va prier ensemble, ça va être génial, puisque tu vas bien et que je vais bien. Vous verrez, ça peut bénir sérieusement des frères. Hein. Lui, Jésus, il nous voit vraiment. C'est lui qui nous rend capables. Si vous vous laissez aller devant le trône, vous allez glorifier Dieu. Vous allez valider ce pourquoi il a donné sa vie. Donc, si vous n'allez pas bien, vous n'allez pas bien, c'est pas la fin du monde. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Hein ? Donc la Bible, quand on la lit dans son ensemble, elle va dépeindre beaucoup d'expériences humaines très différentes. Mais quand même, globalement, elle révèle toujours une fragilité inhérente à qui nous sommes. Mais elle révèle aussi notre dépendance à l'égard de la grâce de Dieu. Ça, c'est très positif. Ça, c'est super. Hein ? Voilà. La vulnérabilité, dans le contexte biblique, c'est lié à notre condition humaine, notre mortalité, nos limites, et surtout nos besoins de la miséricorde de Dieu. Hein ? Donc, au quotidien, nous sommes appelés à faire confiance au Seigneur. Hein ? Faire confiance à sa générosité. Et en fin de compte, reconnaître, accepter notre vulnérabilité, c'est le bon chemin pour permettre à Dieu de transformer nos cœurs. Hein ? Et quand Dieu transforme nos cœurs, elle nous permet d'aller annoncer l'évangile aux autres. Parce que quand on est satisfait de notre vie intérieure, du Seigneur, on n'a qu'une envie, c'est la partager aux autres. Je ne vais pas donner des exemples, mais il y en a. Mais je vais vous donner un exemple dans la parole de Dieu, c'est mieux. Il y a un passage dans l'évangile qui peut servir d'exemple, qui est vraiment très intéressant dans tous les sens du terme. C'est quand le Seigneur Jésus il va envoyer ses disciples deux par deux. Alors, entre parenthèses, j'ai lu ça, je vous le partage, peut-être s'il y en a que ça va intéresser. Pourquoi Jésus il envoie ses disciples deux par deux ? Pardon ? Ouais, on puisse témoigner. Ouais. En fait, j'ai lu ça, c'est un théologien qui a écrit ça. Pardon ? Quelqu'un a la réponse ? Ouais, aussi. Mais plus, vous allez voir, un disciple tout seul, c'est un enfant de Dieu. Deux disciples, c'est l'Église. Là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Les disciples qui partent par deux représentent l'Église. C'est fort, c'est fort. Hein ? C'est vraiment un enseignement. Ça veut dire, l'Église, sa responsabilité, c'est d'aller dans le monde. Hein ? D'ailleurs, on verra un autre sens aussi. Donc, c'est dans Marc, il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir deux tuniques. D'ailleurs, ça m'a fait réfléchir, c'est marrant de dire ça. C'est comme si vous partiez en voyage, ben vous mettez une chemise et puis une autre. Revêtir deux tuniques. Bon, bref, c'est bizarre. La deuxième sera sale. Hein, enfin bon. Bon. Et donc, il les envoie dans les villes et les villages. Et qu'est-ce qu'il y a donc ? Sans vêtements de rechange, sans argent, sans pain, sans bien. Hein ? Alors, je me souviens un soir où j'avais assisté à une explication qui, à mon avis, a du sens. Hein. La personne disait que Jésus envoie comme ça, vite fait, sans rien, c'est parce qu'il y a une urgence. Il y a une urgence d'aller proclamer la parole de Dieu, certainement. Mais il y a peut-être autre chose aussi, plus fondamentale, sur la nature de la mission de Dieu, son royaume et de notre vocation de le vivre et de l'annoncer. Qu'est-ce qui se passe ? Jésus envoie les disciples de quelle manière ? Ils sont vulnérables. Il les envoie sans rien. C'est bizarre. Je pense que ça doit nous parler. C'est vraiment plus qu'une métaphore. Voilà. Il les envoie sans rien. C'est tellement différent de la pensée hein, comment on va devoir accomplir la mission du Seigneur. C'est tellement différent. Hein. Parce que nous, on va réfléchir à une organisation. On va réfléchir, est-ce qu'on a de l'argent ? Quelles sont nos ressources ? Préparation, formation, tout ce qu'on a besoin pour réussir. On pense qu'on sera plus fort, sera plus sûr si nous arrivons sur le terrain avec une bonne assise en soi, une bonne organisation. Puis c'est vrai. Enfin, c'est pas faux, on va dire. C'est pas faux. Mais Jésus, c'est pas ça qu'il fait là. Jésus, il les envoie. C'est la galère, quoi. Il les envoie sans rien. Hein ? Donc, je pense que ça, là aussi, ça doit nous parler. Jésus demande à ses disciples d'annoncer la bonne nouvelle à partir d'une position de faiblesse et de vulnérabilité. Il leur donne l'autorité, mais ce n'est pas l'autorité comme on pourrait s'y attendre. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas une super... Il n'y a rien, il n'y a rien. Mais il leur donne l'autorité de parler, par exemple, aux esprits. Hein ? Même, on va dire que cette puissance s'exerce au travers de la vulnérabilité. Ils vont rencontrer des gens réellement, un par un. Enfin, là, ils sont deux, mais une personne. Ça va être très concret. Ils prônent le royaume de Dieu. Hein. Et en même temps, il y a une deuxième raison qui est intéressante, c'est que Jésus les met en route de façon à ce qu'ils ne soient pas seulement ceux qui offrent la vie éternelle, ceux qui annoncent le royaume de Dieu, mais aussi ceux qui doivent recevoir. Ils doivent recevoir de la nourriture. Ils doivent recevoir l'hébergement. C'est fou. C'est deux choses. Mais c'est énorme sur la vulnérabilité, justement. Sur le fait que tout dépend du Seigneur. Voilà. Je t'envoie, tu vas prêcher la bonne nouvelle, mais à un moment donné, il va falloir trouver un toit. Quelqu'un va t'offrir un toit. Ils font l'expérience très concrète que Dieu agit. Hein ? Donc, le message que nous avons à offrir, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, ce message est inséparable des moyens de la proclamation, hein, la manière de faire. Voilà. Et bien souvent, je ne sais pas pour vous, mais bien souvent, quand vous témoignez du Seigneur, les gens, ils aiment bien entendre votre cœur, ce que le Seigneur a fait pour vous. Ils s'en moquent de savoir, vous savez, si vous avez quatre phrases bien senties. Mais qu'est-ce que Dieu il a fait pour toi ? Et quand on parle de ce que Dieu a fait pour nous, il n'y a pas d'arrogance, il n'y a pas de... Non, on est vrai, c'est vrai. Hein ? Et on expérimente la grâce de Dieu parce qu'on va rencontrer la personne. Hein ? Moi, je suis convaincu que c'est un modèle très très important, cette situation. Aujourd'hui, au 21e. Hein ? Si on cherche à communiquer la grâce de Dieu, ben, ça doit être en toute simplicité. Plus je vieillis, plus je le crois. Hein ? Pour annoncer l'évangile, il faut abandonner notre illusion de contrôle. Hein ? Il faut sortir de notre zone de confort. Hein ? De partager nos vies dans l'amour et la compassion avec les autres. Hein ? Parce que souvent, quand on parle avec des gens, ils nous disent « Oh là là, moi, annoncer l'évangile dans la rue... » Ah ben c'est sûr, hein, on sort de sa zone de confort. C'est surtout ça en fait. Mais ça peut être une manière, mais ça peut être aussi notre voisin de table, ça peut être... Mais on doit annoncer l'évangile. Ça nous rendra vulnérables. La vulnérabilité, c'est le chemin vers la maturité. Donc c'est extrêmement positif et on peut sauver des vies. Hein. Partager nos vies, avoir compassion des autres, on doit se préparer à être vrai avec les autres. Hein. En mettant une priorité sur l'écoute. Parce que ça, c'est un gros défaut chrétien. Hein ? On parle, mais on n'écoute pas. On n'écoute pas ce que la personne dit vraiment. Ouais, moi, je suis bien placé pour le savoir. Moi, les gens commencent à parler, je les coupe, je ne m'en rends même pas compte. Bon, donc, j'ai vraiment à progresser. Moi, personnellement, en tout cas. Parce qu'on a besoin de les écouter. On a besoin d'entendre. On a besoin d'apprendre sur eux. Hein ? Je crois que c'est ce que faisait Jésus, tout simplement. Alors, on ne va pas se prendre pour des Jésus, non. Mais on va laisser Jésus agir en nous pour communiquer le message de l'évangile. Jésus, écoutez les gens. On doit apprendre à les écouter. On doit apprendre à aller les chercher là où ils sont. On ne doit pas arriver avec nos prérequis. Je crois que le Seigneur, c'est vraiment les gens. Les gens souffrent. On ne peut pas arriver avec quatre mots comme ça. On doit... Fred Poujol, quand vous allez dans son garage, j'aime bien, je vous dis, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? C'est marrant. Tu sais, tu es en panne, alors qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Ben, a priori, réparer ma voiture. Mais c'est un peu ça. On parle avec quelqu'un, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Ben, peut-être pas grand-chose, mais ce pas grand-chose peut se transformer en vie nouvelle, en vie transformée. Donc, priorité sur l'écoute. Hein ? Notre envie d'instruire, elle est légitime, parce que quand on annonce la parole de Dieu, il faut bien l'expliquer. Mais d'abord, laissons la relation s'instaurer. Hein. Alors, faire partie de cette œuvre, ben, on doit savoir, parfois on va être abîmé, rejeté. C'est comme ça. Vous ne changerez rien, mais le Seigneur est là. Hein. Et vous savez que le mot « église », pour continuer dans l'église, en grec, les premières communautés chrétiennes étaient appelées « ecclésia », hein, ce qui signifie ceux qui sont appelés dehors, à l'extérieur. Là aussi, c'est intéressant. Voilà notre mission. Comme disciples de Jésus, on est appelés à sortir du familier, dans la vulnérabilité de l'inconnu, vers un espace plus grand, appelés à abandonner toutes nos illusions, de l'autosuffisance et de l'invisibilité pour marcher avec Jésus le Maître. Et avec les compagnons de route que Dieu nous apportera. Les compagnons de route, c'est chacun, chacun de vous. C'est moi, voilà. Le Seigneur nous apportera, hein, on est chanceux, pour que nous soyons témoins au royaume d'espoir, de guérison qui se dévoile. Et puis à la fin, ben, ce royaume, ce sera pour toujours la patrie. On ira en Canaan tous. On va se régaler en Canaan. Il y a des gens, ils vous disent, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant l'éternité ? On va se régaler. Je ne sais rien, moi, ce qu'on va faire, mais on va se régaler. Parce que Dieu est Dieu, Dieu est amour, Dieu nous aime, et ça va être génial. Hein ? Alors, notre soi-disant vulnérabilité, c'est une force. C'est celle qui s'attend toujours au Seigneur. Et c'est la seule manière de vivre. Béni dans ce monde, c'est d'accepter nos faiblesses. D'accepter que Dieu peut combler chacune de nos faiblesses. Et que c'est même ce qui va nous maintenir dans le fait d'être ouvert aux autres. Le fait d'entendre la souffrance de l'autre, c'est dans notre vulnérabilité. Parce que quand tout va bien, on peut pas passer notre vie, on peut pas finir notre vie en alternant je vais bien, je vais mal. Des situations difficiles, il y en aura toujours. Voilà. Hein ? Vous savez, quand quelqu'un décède, souvent, on a une expression, on dit, enfin, il y a une demi-heure, je lui parlais. Enfin, on s'en fout, ça ne change rien. Une demi-heure après, elle est morte. Voilà. Comment on peut prévoir ça ? Pas de sens. On a besoin, nous, de se rassurer comme ça. Donc, des bonnes, des mauvaises. Mais par contre, accepter cette vulnérabilité et à chaque situation, attendre que Dieu nous réponde, ce n'est pas la même chose. Ça va faire du bien. Hein ? Voilà, je vais finir. Ça ne vous a pas marqué, mais ce n'est pas grave. Je pensais que ça allait plus vous plaire. Mais je vais vous... Au début, vous vous souvenez, je vous ai dit, la vulnérabilité d'un point de vue humain, c'est comme être sur scène, nu, et espérer avoir des applaudissements plutôt que des rires. Bon, ça ne vous a pas... C'est pas grave. Moi, je l'ai trouvé bien. Non, parce que j'imaginais. Hein, et je rajouterai, peut-être celui-là vous plaira plus, que d'un point de vue chrétien, la vulnérabilité, c'est la même chose, mais avec la certitude d'être applaudi par le roi des rois. Pas l'espérance, la certitude d'être applaudi. Hein. Et peut-être ce roi des rois nous dira, enfin, enfin, tu t'es mis à nu. Voilà. Soyez bénis. Merci.
Merci Fred. C'est dans cette vulnérabilité que nous allons